Notre frère a fait une présidence qui, pour moi, va m'aider dans ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Mais d'abord, je vais vous citer plus ou moins ce qu'il a dit. Pas tout, bien sûr, mais une partie. Le frère a parlé de pollution dans notre vie. Puis il nous a fait chanter « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Il a dit aussi « Je te cherche, mon âme a besoin de toi ». Il a dit aussi, et là, je vais m'appuyer sur ce qu'il vient de dire ici, « Et quand le diable vient me faire douter, je lève les yeux vers Jésus. Est-ce que c'est bel et bien ce que je fais ?» Il a dit aussi ici, à la Sainte-Seine, pardon, il a dit aussi de lui faire confiance. Et il a posé cette question. Quelle est notre réponse face à ça, face à ce que nous vivons chaque jour, face à ce que nous sommes? Prenons le texte Genèse, s'il vous plaît. Écoutez ceci. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le diable ne ment pas vraiment quand il dit ces choses. Il s'appuie sur une vérité. Pourtant, tout ce qu'il dit, même quand il s'appuie sur la vérité, c'est un mensonge. Dans ce qu'ils disent, permet même de citer les paroles de Dieu, que Dieu venait de citer juste avant, en disant qu'ils connaîtront le bien et le mal. Regardez le verset 7 du même chapitre. Le diable leur a promis que si jamais ils mangeaient de ce fruit, leurs yeux s'ouvriront. Et qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Merci frère. Le diable, en mentant, parce que c'est le menteur, on verra plus loin, on va voir que c'est vraiment le menteur, a dit quelque chose qui allait s'accomplir. Il a pris une parole de Dieu, il l'a transformée pour dire, voilà, c'est pas grave, ça va, c'est pas grave, ça va, ce qui va arriver, c'est rien. Tu vas simplement, tes yeux vont simplement s'ouvrir. Et c'est vrai. C'est ce que Dieu avait dit. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose au sujet du diable. Nous avons lu que notre frère a dit tantôt que quand le diable vient nous faire douter, comment nous réagissons? Comment nous vivons? Comment nous le chassons? Comment nous l'acceptons? Je voudrais vous interpeller sur son mécanisme afin de mieux le discerner. Mais pour cela, nous allons devoir lire pas mal de textes, malheureusement. On prend un autre exemple où le diable va agir, cette fois-ci, mais ne pas réussir à faire ce qu'il avait l'espoir de faire. Luc 4, 1 à 13 dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Il ne met pas Dieu en doute. Il ne met pas Jésus en doute. Mais il dit « si ». Et si vous regardez bien, quand il vient voir Ève, c'est ce qu'il fait. La première chose qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que Dieu a dit, mais si. La première chose qu'il essaye de faire, c'est de nous faire douter. Il commence par mettre en doute la parole de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, comme il l'a fait avec Ève, il commence par essayer de nous faire douter. Mais là, il a affaire à quelqu'un de plus puissant que lui. Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Jésus va lui répondre par la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Face au doute que le diable veut insinuer dans nos vies, c'est ça que nous devons faire. Parce qu'il n'y a que ça qui est la vérité. Parce que même si on utilise une partie de cette vérité, nous pouvons en faire un mensonge. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Écoutez ce qu'il dit. « Et je la donne à qui je veux. » Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ici, le diable dit que la terre entière lui appartient, que les royaumes, tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Il ment pas quand il dit ça. Pourtant, dans ce qu'il dit, c'est quand même un mensonge. Pourquoi ? Parce que tout ne lui appartient pas. Il y a les élus, cela ne lui appartient pas. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » De nouveau, Jésus répond, par la Bible, au travers de la parole de Dieu. Alors le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, écoutez ça. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De nouveau, avec la parole de Dieu, parce qu'il cite le psaume 91, versets 11 à 12, qui dit ceci, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » De nouveau, qu'est-ce que le diable fait ? Il vient tenter Jésus avec quoi ? Pas avec des fables. Pas avec des mensonges. Et pourtant, c'est un menteur. C'est clair. Il vient et il falsifie, en fait, la parole de Dieu. Et Jésus lui répond. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. Le diable vient de tout essayer pour interrompre le ministère de Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut, interrompre le ministère de Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'il aille plus loin. Bien sûr, on sait qu'il n'y est pas arrivé. Maintenant, voyons ce que nous dit Jésus sur le diable. J'ai demandé Jean 8, verset 44b, parce qu'il y a la première phrase. Elle n'est pas considérée. Ne prenez pas ça pour vous. Si elle s'affiche, ne la prenez pas pour vous. C'est pas vraiment. Il est dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mettons ça de côté, s'il vous plaît. J'aimerais simplement savoir ce que Jésus... Donc, remets le verset, c'est bon. Mais c'est la suite, en fait, qu'on va lire. Mais je peux le lire, hein. Qu'est-ce que nous dit Jésus sur le diable? Qui connaît mieux que le diable lui-même? Qui le connaît mieux, si ce n'est Dieu? Et tout ce qu'il dit, Jésus, c'est la vérité. Nous l'avons vu. Il cite. Et il dit ceci. Il a été meurtrier dès le commencement. Cain, Abel. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il dit, même quand il cite la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Ça va, frère. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il est le père du mensonge? Qu'est-ce qu'il dit quand il est le père du mensonge? Vous savez ce qu'il dit? En fait, il dit que c'est lui qui l'a enfanté. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui lui a donné le jour. C'est ça le père du mensonge. Même quand il utilise une parole, même quand il utilise une phrase de la Bible, c'est pour faire un mensonge. Il ne peut pas dire la vérité, car il n'a pas de vérité en lui, nous dit Jésus. Aujourd'hui, le diable a-t-il perdu sa force? Aujourd'hui, le diable a-t-il perdu sa filouterie? Aujourd'hui, le diable ne connaît-il pas la parole de Dieu? Aujourd'hui, le diable est toujours le même. Et il peut venir nous tromper. Et quand est-il venu nous tromper? Depuis que Jésus l'a renvoyé, a-t-il cessé de le faire? Voyons que dans le jardin de Gethsémané, c'est près de 3 ans après, le diable était encore là. Nous voyons que en Judas, le diable était encore là. Dans tous les livres qui vont suivre, donc tous les livres qui vont venir après les évangiles, des Actes jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que le diable est encore là, et toujours là. Nous le voyons à l'œuvre. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, encore, il agit de cette façon-là envers nous. Aujourd'hui, encore, il vient, avec la parole de Dieu, nous tenter, afin que le ministère de Jésus-Christ s'arrête, afin que nous restions assis sur notre chaise. Mais peut-être on peut dire aussi que le diable est lié, que le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Nous pouvons aussi penser cela. Nous pouvons fermer nos oreilles, ou nous pouvons dire, mais non, frère, enfin, nous sommes sauvés, nous sommes chrétiens. Comment le diable pourrait-il nous faire agir? Non, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Moi, je ne peux pas croire que le diable n'est plus dans le monde. Quand je vois ce que je vois à la télé, ou quand j'entends à la radio, ce qu'on a entendu encore cette semaine, ces enfants, c'est... Non, Je ne veux pas croire que le diable n'a plus pouvoir. Je ne veux pas croire que le diable n'a plus cette force. Mais il y a aussi Jésus qui nous dit que, dans Luc, il dit ceci, écoutez, il parle des démons. Et il dit, alors il s'en va. Et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Parce qu'il y a des méchants et des plus méchants que les autres. Ils entrent dans la maison. Ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Si vous connaissez le contexte, ne pas le citer, il y a trop de versets à citer encore pour pouvoir aller chercher le contexte. Si vous le voulez, allez le voir le contexte. Allez regarder le contexte de ce verset. Comment le diable pourrait-il être lié s'ils peuvent entrer et sortir de cet homme comme bon leur semble? Alors, aujourd'hui, nous, chrétiens, depuis des années, depuis des mois, pensons-nous que nous pouvons être tentés comme Ève ou comme Jésus a été tenté? Nous sommes souvent tentés par nos propres convoitises, nous dit la Bible. Le diable, lui, il a plus de 6000 ans d'expérience envers les hommes. Plus de 6000 ans d'expérience. Il sait exactement comment il doit faire. Nous avons combien d'années d'expérience face à lui? Combien? 10 ans? 20 ans? 30 ans? Mais dans ces 30 ans, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons passé 30 ans à le combattre ou est-ce que nous avons passé 30 ans à accepter toutes les choses qu'il nous sursure, siffler dans l'oreille? Mais on peut dire aussi autre chose. Je l'ai entendu. On peut lire 2 Corinthiens 2, 14 à 17, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Qu'est-ce qu'il dit? En fait, si on prend rien que ce verset, on sait que c'est pas bien, mais on peut, on le prend. Qu'est-ce qu'il dit? Mais nous n'avons rien à faire, en fait. Si nous lisons bien le texte, qu'est-ce qu'il dit? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Bon, voilà, c'est bon. On va toujours triompher, de toute façon, c'est marqué. Oui, toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. C'est lui qui le fait. Alors, qu'avons-nous à faire? Puisque c'est lui qui le fait. Je l'ai entendu. Et peut-être que parfois je l'ai pensé, moi-même. C'est la volonté de Dieu. Voilà ce que j'ai entendu. Si cela est comme ça, c'est parce que Dieu le veut. C'est tellement plus facile de dire ça. Ça nous excuse de tout. De toute façon, c'est pas de notre faute. C'est Dieu. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Nous n'avons rien à faire. Nous sommes tout simplement cette odeur. Voilà, une odeur de mort pour les morts, pour ceux qui vont mourir, et une odeur de vie pour ceux qui vont être sauvés. Sur le marché, on n'a qu'une chose à faire, c'est rester assis. Nous sommes cette odeur. L'odeur va se dissiper dans le marché, et en restant assis, nous pourrons tout simplement prêcher l'Évangile. Bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe, hein, on le sait bien. Mais réfléchissons à ça. Un autre exemple. Écoutez cet exemple. Il est dit, et ça c'est un verset que je vous ai déjà cité souvent, « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Ne faites pas aux autres, je vais le lire parce que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Qui a déjà entendu ce verset? Déjà, si vous étiez là quand je vous l'ai cité, vous l'avez dû l'entendre. Et pourtant, ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset biblique. Hein. Je vous le promets. Hein. Voilà ce que voilà quel est le verset biblique. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est tout près. Si on prend bien les deux versets, le premier verset que je vous ai donné, c'est un faux verset. Ne faites pas aux autres. Ne faites pas. Et si on prend ce verset, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, c'est tout près. Il y a juste une chose qui diffère dans ces deux versets. C'est que le diable vous dit restez assis sur votre chaise. Ne faites pas. Si vous ne faites pas le mal, vous faites le bien. Non. Dieu dit si vous voulez faire du bien, faites-le. Le bien ne se fait pas tout seul. C'est toujours tout près de la parole. Mais cela reste un mensonge. Nous citons parfois, nous, la parole pour nous disculper. Ça aussi, j'ai entendu ça. Souvent, j'ai entendu ça. Nous citons des versets bibliques pour nous disculper, pour nous excuser. Mais en le faisant, nous falsifions la parole de Dieu. Et cela est un mensonge. Si nous la falsifions, même si nous la citons, si nous la falsifions, c'est un mensonge. Donc, si c'est un mensonge, réfléchissons à qui nous fait parler. Petit à petit, par des petites choses insignifiantes, sans nous en rendre compte, nous nous arrangeons avec ces petits mensonges et nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons. L'œuvre du diable. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je me souviens, j'ai posé cette question à un frère sur le marché, je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as dit au diable, oui, mais il est écrit. C'est quand la dernière fois? En l'écoutant nous susurrer ces petits mensonges, nous ne prenons pas le bouclier de la foi afin d'arrêter les traits enflammés du malin. Nous avons dans notre sac et dans notre bourse tout ce dont nous avons besoin pour lui résister. Nous avons la foi, le courage, mais nous préférons parfois utiliser la crainte. C'est plus facile. C'est beaucoup plus rassurant. Le courage, c'est proactif. C'est actif. La crainte, c'est plutôt passif. Proactif, passif, ça vous rappelle rien? Passif, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Proactif, c'est Jésus dit. Faites aux autres. Le verset 17. De 2 Corinthiens. Merci. J'ai lu Corinthiens. J'ai lu tout de Corinthiens. Et c'est en lisant de Corinthiens que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose que je ne perçois pas. Quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose qui, où je suis encore aveugle. Car nous falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Paul qui le reproche aux Corinthiens. C'est possible, mes frères et sœurs, c'est possible que nous falsifions la parole de Dieu. C'est possible. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit lui, il dit. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Allez, un dernier exemple. Pas plus tard qu'hier, j'étais en réunion et je discutais avec un pasteur. Ouais, il a son diplôme de pasteur. Et il me disait ceci. Tous les mariages qui sont faits à la commune sont des mariages agréés par Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'homme respecte la loi et en respectant la loi, il ne se met pas en contradiction avec Dieu. J'avais quand même un gros problème avec ça. Je me dis, oui, mais si c'est ça, et c'est vrai qu'on peut dire ça, on peut le dire, mais si c'est que ça, alors ça sert à rien de venir à l'église, puisqu'on est déjà devant Dieu. Oui, mais il y a pire que ça. Aujourd'hui, on autorise le mariage homosexuel. Cela veut dire quoi? Que les homosexuels sont en ordre devant Dieu parce qu'ils sont passés à la commune? Non. Du coup, vous voyez le raisonnement? Si on ne va pas plus loin que la réflexion, on dit des choses que Dieu désapprouve. Si on s'excuse de ce qu'on fait, si on utilise la parole de Dieu pour faire et s'excuser de rester assis, on fait la même chose. Alors nous pouvons penser que jamais, je ne me suis laissé avoir parce que le diable voudrait me faire dire. Jamais. On peut le penser. Alors si vous le pensez aujourd'hui, vous utilisez le diable. Parce que si vous pensez que le diable vous a laissé dire des choses qui sont contraires à Dieu, vous a laissé faire ce que vous vouliez, alors qu'il a essayé de le faire avec Jésus-Christ lui-même, alors vous ne comprenez pas ce que la Bible dit. Alors vous n'êtes pas attentif à ce que la Bible dit. Nous sommes tous dans cette situation. Je vous l'ai dit, il a 6000 ans, lui. Lui, il a 6000 ans d'expérience. Plus de 6000 ans. On ne va pas discuter sur la création du monde. Hein. C'est pas le but. Et vous pensez sincèrement qu'il vous a oublié? Un seul homme, écoutez, si on le chasse le démon, si on nettoie la maison, c'est le contexte de la phrase que je vous ai lue, hein, et si la maison reste vide, qu'est-ce qui se passe? Un seul homme. Huit démons, encore plus méchants encore que celui qui était là. On ne va pas parler qu'on est possédé, c'est pas la question. Mais des démons, il y en a suffisamment, hein. Croyez-moi. Il y en a suffisamment. Ce que j'aimerais simplement, c'est que cette prédication ne soit pas simplement une prédication, mais qu'elle soit vraiment un moment de réflexion, un début pour une réflexion. Quelque chose qui va nous faire réfléchir. Quelque chose pour lequel on va discuter, pour voir comment ça se passe, comment il arrive à faire ces choses, à nous faire faire ces choses. Et vraiment, je vous le dis, si jamais vous n'êtes pas conscient que le diable vous a fait agir dans ce sens-là, c'est inquiétant pour vous. Parce que nous ne sommes pas plus grands que le maître. Nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Et parce que nous ne sommes pas plus grands que notre maître, il arrive à nous faire agir, lui. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Jésus, il le fait avec nous. De Corinthiens 11, versets 3 à 4, dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient pour prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Si ce n'est pas possible, si nous pensons que c'est impossible, pourquoi l'apôtre Paul viendrait le dire? Non, au contraire, il dit que c'est possible. Il dit qu'on peut. Écoutez, quelqu'un vous prêche un autre Jésus. Ah bon? Je ne savais pas qu'il y en avait un autre. Un autre esprit. Un autre évangile. Nous sommes ces personnes qui nous prêchons à nous-mêmes ces choses. Et quand nous le faisons, cela ne vient pas de nous. Vous le supportez fort bien. Voilà ce qu'il dit aux Corinthiens. Il dit que c'est possible et qu'on peut le vivre. Toujours de Corinthiens, mais 6, 3 à 13, c'est pas chronologique parce qu'il fallait. Je vais le lire et puis je vous dirai. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. Bon, jusque-là, ça va. Après, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint. Moi, j'ai plus. Oui, merci. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. Vous le saviez, vous aviez des armes offensives et défensives face au diable, pas face aux hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre les puissances. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Je lirai le verset 13 après. Aujourd'hui, le diable nous dit que nous ne devons pas souffrir. Non, en tout cas pas pour l'Évangile. Pourtant, la Bible nous dit l'inverse. Nous l'avons lu. C'est pas qu'on doit verser son sang. C'est pas qu'on doit se meurtrir. C'est pas ces choses. C'est ce que nous, nous voulons faire pour le Christ qui est important. Ce que le Christ veut faire avec nous. Ça, c'est son problème. Si le Christ veut nous voir dans la détresse, béni soit son nom. Parce que si c'est sa volonté, c'est le meilleur pour nous. Mais aujourd'hui, ici, si mon frère ou ma sœur me dit de telles choses, ou une parole qui ne me plaît pas vraiment, est-ce que je vais le supporter? Rien que ça, entre nous. Je vais faire ce que la Bible me dit en faisant tous mes efforts, en forçant, en me forçant, ou tout simplement je vais laisser ma chair, le naturel, le plus facile, décider à ma place. Je vais me fâcher, je vais taper dessus. Après tout, j'ai le droit, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Si la vie du Seigneur, c'est simplement ce que nous faisons, réfléchissons simplement. Si la vie du Seigneur, c'est simplement ce que nous faisons tous les jours, alors nous sommes presque des païens. Ou presque comme des païens. Parce que jamais, au grand jamais, nous serons des païens. C'est clair. Le verset 13 dit « Rendez-nous la pareille ». Qui veut dire là? Oui, c'est ça. Oui. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Élargissez-vous. Plus de Jésus en nous. Plus de foi en nous. Plus élargissons-nous. Un peu de contexte de Paul. Paul fait ses reproches aux Corinthiens, pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'un homme à Corinthe ait dit beaucoup de mal de l'apôtre Paul et essayé de le détruire. Et ce que Paul reproche à l'Église, pas à celui qui a essayé de le détruire, hein. Au contraire, il va prendre parti pour lui après. Ce que Paul reproche à l'Église, vous savez c'est quoi? C'est de n'avoir rien dit, d'avoir accepté le mensonge et de ne pas l'avoir défendu, Paul. Parce qu'il dira, ma lettre de recommandation, c'est vous. Jésus dit la même chose. Cela devrait nous servir de leçon pour nous aussi, tous les jours. Quand est-ce que le calomniateur nous a dit pour que nous restions assis sur notre siège, Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, des réactions, d'autres réactions. Oui, mais tu sais, cela s'est passé il y a si longtemps. Les Corinthiens, c'était il y a tellement longtemps. Franchement, est-ce que ça peut encore nous concerner? Ce sont des phrases que j'ai entendues. J'ai pas ici, pas forcément ici, hein, mais je les ai entendues. Ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Toutes ces paroles, c'est plus pour nous aujourd'hui. L'Église en ce temps-là, ben, elle était différente, forcément. On voit les actes. Je vous promets que j'ai entendu quelqu'un me dire que les actes n'étaient plus pour nous. C'était les actes des apôtres. Ce ne sont pas les nôtres. Mais au frère ou à la sœur, faut-il réellement lui pardonner? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Moi, je ne suis pas doué pour faire ces choses. Ou comme le pape, je suis trop vieux. Je vais prendre ma pension. Alors, une dernière question, simplement. Quand est-ce que le diable est venu pour la dernière fois avec des versets bibliques vous mettre le doute dans la réussite du plan de Dieu? Quand est-ce qu'il est venu fois pour la dernière fois? Et quand est-ce, quand il est venu cette dernière fois, qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est vrai, tu as raison. Ou il est écrit. Que le Seigneur vous garde. Amen.